Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Si vous êtes de fidèles auditeurs et auditrices de l'émission peut contenir des infos, on vous souhaite la bienvenue. Puis on vous souhaite la bienvenue pareil si vous êtes tombé dessus par accident, parce que ça peut arriver des fois qu'on zappe sur une station de radio, puis on arrive sur quelque chose, puis on fait comme « qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Ben, c'est une émission d'information, ça s'appelle « Peut contenir des infos » et nous sommes deux au microphone, en l'occurrence mon collègue qui est là, Sébastien.
Oui, ça me fait bien plaisir. Salut Simon.
Parmi les sujets qu'on va énoncer cette semaine dans cette émission-ci, on avait parlé, est-ce que c'est la semaine dernière ou l'autre d'avant, pardonnez-moi ma mémoire, mais on avait parlé des espèces d'animaux qui sont parmi les plus venimeuses.
Oui.
Et il y avait là-dedans les serpents. Puis toi, tu veux nous apprendre quelque chose d'assez particulier sur les serpents dans le deuxième bloc tantôt.
Oui, c'est qu'ils sont, ils peuvent être des animaux sociables.
Ben voyons
ça
donc.
Ça se fait des amis. Je te dis, ça se fait des groupes, ça se fait des réseaux sociaux, les serpents. Je vais te donner quelques exemples, puis on en parlera un peu tantôt.
OK, parfait. Moi, je vais vous parler dans ce deuxième bloc-là tout à l'heure des poteaux de téléphone. Tout ou presque ce que vous avez toujours voulu savoir sur les poteaux de téléphone sans jamais poser la question. Hein? Pourquoi c'est fait en bois, les poteaux de téléphone? Qui a inventé ça? Depuis quand que ça existe, les poteaux de téléphone? On va vous dire ça tantôt. Dans le troisième bloc, tu vas nous parler d'œufs, mais des œufs un peu particuliers.
Des œufs de dinde.
Okay.
Puis en fait, c'est que, ben oui, j'ai vu un article passer récemment, puis ça nous explique comment ça se fait qu'on n'en voit pas vraiment au supermarché. Pourquoi c'est si rare, des œufs de dinde, quand pourtant c'est bon, des œufs de dinde, ça ressemble aux œufs de poule?
Okay.
Ben, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est rare, mais ça pourrait vous donner le goût d'y goûter ou de tenter d'en avoir, parce que ça a l'air pas mal bon.
Toi, tu parles des œufs de dinde dans ce bloc-là tout à l'heure. Moi, je vais parler des cigognes. On va rester dans le domaine des oiseaux. Hein? C'est un oiseau, les cigognes, dont on entend beaucoup parler, qu'on croit connaître, mais je vais peut-être vous apprendre deux, trois affaires sur les cigognes. Puis c'est un peu particulier parce que... OK, mais je vous garde ça pour tantôt. Oui, et puis dans le quatrième bloc, on va clore avec un quiz cette semaine sur...
Ça va être mon tour de me faire varloper par le quiz.
Ouais, non, pas tant que ça. On va parler des dessins animés célèbres.
Ah!
Ouais, on va...
Ah, je risque d'être bon, je risque d'être pas pire.
On va voir ça, on va voir
ah,
ça.
Ah, j'ai bien hâte à ce quiz. Bon, tu vas me donner une chance cette semaine.
OK, alors on va voir ça, on va aller dans les dessins animés célèbres. Mais d'entrée de jeu, de quoi tu veux nous parler là pour lancer cette émission-ci?
On va parler de résolution. Bon, ça avance l'année 2025, là, on est au deuxième mois, mais quand même, il y en a beaucoup qui prennent des résolutions. D'abord, d'entrée de jeu, toi, Simon, est-ce que tu es du genre à arriver à chaque année puis te dire « je prends des résolutions mon année »
Sais-tu quoi, je faisais ça quand j'étais plus jeune, prendre des résolutions. Puis, avec l'expérience de vie, je me suis rendu à l'évidence que prendre des résolutions, c'est la meilleure affaire pour pas les réaliser ou pour pas les... tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux scraper quelque chose, prends des résolutions au mois de décembre. C'est sûr et certain qu'au mois de janvier, février, ils vont tomber à l'eau. Fait que j'en parle plus de résolutions.
Mais c'est encore populaire, là, prendre des résolutions en début d'année. Hein. On dirait que c'est une date, tu sais, où on se dit, bon, si on veut faire un changement, on se dit tout de suite commencer le 1er janvier, puis là, tu sais, faire l'année au complet, ça nous donne comme un barème. Mais c'est ça, c'est une étude. Pourquoi je te parle de résolution aujourd'hui, c'est que il y a une croyance populaire qui dit que pour essayer d'établir une nouvelle habitude, ça prend juste 3 semaines, puis ça y est.
Ben oui.
Mais ça nous vient d'une étude américaine. Mais là, il y a des Australiens qui sont pas d'accord avec ça, qui ont fait une autre étude, puis qui disent non, c'est pas mal plus long, établir une nouvelle habitude dans la durée, réussir une résolution comme il faut. Alors, si vous décidez, par exemple, de prendre soin de votre santé, hein, ça revient souvent, c'est souvent « cette année, je vais prendre soin de ma santé », par exemple, en mangeant mieux, en faisant du sport, ben il va falloir de la motivation parce que pour que ça s'installe dans la durée, là, ce sera pas mal plus que 3 semaines. Donc, il y a une théorie qui était avancé par un chirurgien américain qui disait, lui, le fameux 3 semaines pour intégrer une habitude dans le quotidien. Puis il y a des chercheurs australiens qui disent que c'est plus 2 mois.
Hein?
Au moins, ouais. Faut vraiment établir pour que quelque chose devienne normal. Tu sais, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, par exemple, fais-les 2 mois, puis là, ça commence à vraiment être dans l'habitude. Mais après 3 semaines, c'est pas vrai que ça s'est vraiment établi, ou du moins dans la majorité des cas. Hein? Pour une habitude comme manger plus sainement, ça prend 2 mois à vraiment s'installer selon la nouvelle étude. Il y a le docteur Ben Singh, qui est un chercheur à l'Université d'Australie méridionale. Il a dit que lui, au début de l'année, beaucoup se fixent des objectifs, qui veulent avoir des belles résolutions, comme être plus actifs. Il y a aussi réduire la consommation de sucre, qui revient souvent comme résolution, ou faire des choix alimentaires plus sains en général. Mais c'est ça, malgré que la sagesse populaire dise qu'on peut s'y retrouver en 21 jours, là, c'est pas vrai, c'est pas fondé, ça n'a pas de preuves. C'est issu, cette croyance-là de 21 jours, du livre Psycho-Cybernetics, ben, psycho-cybernétique, là, du chirurgien américain Maxwell Maltz. C'est vraiment lui qui avait sorti ça, puis c'est devenu comme si tout le monde se disait, bon, 3 semaines, c'est suffisant. Puis là, on a utilisé du côté des Australiens 6 bases de données pour les études, puis il y a un total de 20 études comprenant 2600 participants environ d'un âge moyen entre 22 et 74 ans qui ont été sélectionnés finalement. Puis, les habitudes saines qui ont été évaluées étaient variables. Il y avait activité physique, régime alimentaire plus sain, réduction de la sédentarité et des affaires aussi plus simples de tous les jours, comme par exemple quelqu'un qui voulait passer la soie dentaire à tous les jours. Puis, 4 de ces études-là ont été épluchées qui s'intéressaient à la durée nécessaire pour le changement. Alors, pour un régime alimentaire, là, on parle de 59 jours. Quand je te dis 2 mois, là, c'est pas mal ça. Puis si on le fait moins que ça, y a des chances que, comme dans ton cas, les résolutions que tu as prises ne soient pas devenues une habitude. Donc, tu as fini par abandonner, Simon. Faut pas abandonner.
Non, c'est pas de l'abandon. J'ai pris la résolution à un moment donné que je ne prendrai plus de résolution. Et ça tient depuis, non pas des années, mais quasiment des décennies, parce que ça fait longtemps que je me suis rendu compte que, tu vois, m'arrêter de prendre des résolutions.
Bon, puis celle-là, tu l'as gardée.
Celle-là, je l'ai gardée.
Certainement parce que tu l'as duré plus que 2 mois.
Exactement.
C'est devenu maintenant tout à fait normal de ne plus prendre de résolution. Alors, c'était ta dernière.
C'était mon ultime résolution.
Ah oui. Ben, hey, je te parle aussi d'une recherche, Simon, qui a rapporté que pour mettre en place l'habitude des étirements, tu sais, quelqu'un qui veut s'étirer à chaque jour, ça prend en moyenne entre 106 jours et 154 jours pour... 106 jours si on les fait le matin, puis ça prend 154 jours si on les fait le soir, les étirements, pour que ça devienne une habitude. Donc, c'est plus dur de garder une routine d'étirement le soir que le jour. Et puis, s'il y en a qui peuvent rapidement l'adopter, une nouvelle habitude, ben la grande majorité ne réussira pas en 3 semaines. C'est un peu ça, les résultats de l'étude. Puis, les auteurs ont dit que, globalement, leur recherche indique que la formation d'habitude nécessite une durée de 2 à 5 mois pour la plupart des comportements qui sont liés à la santé, pour que ça devienne automatique. Alors, ça peut aller jusqu'à 5 mois. Des règles simples pour terminer, là, pour adopter des nouvelles habitudes. Si vous en avez pris des résolutions, vous voulez que ça marche, ben c'est plus simple, comme on le voit avec les étirements, c'est plus facile d'emmener une nouvelle habitude le matin.
OK.
Si vous voulez vous donner des chances, là, votre résolution, essayez de l'appliquer le matin, si c'est faisable. Si c'est arrêter de fumer, ben là, c'est toute la journée. Donc, on peut pas arrêter de fumer juste le matin. Mais aussi, choisir soi-même ses habitudes. Se faire imposer quelque chose, là, c'est jamais bon. Alors, si on les choisit soi-même, on a plus de chances de le réussir dans un temps meilleur aussi. Puis, les intégrer dans une routine quotidienne stable ou encore avoir des objectifs atteignables. Là, donnez-vous pas des résolutions que vous savez que vous allez avoir de la misère. Mais en gros, durez plus que 3 semaines. Faites 2 mois et vous allez voir, là, ça va devenir une vraie habitude.
Je veux quand même mettre les choses en perspective et au clair, là. Prends encore des résolutions. En fait, ça m'arrive encore de me dire, ben, je veux cesser ceci ou je veux commencer à faire telle chose. Mais prendre des résolutions à la fin de l'année, là, tu sais.
C'est pas nécessairement pour le 1er janvier, toi.
C'est ça. Mais ça m'arrive, là, tu sais. Je veux dire, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, je suis pas arrivé, par exemple, au 15 de décembre en disant, ouais, le 1er janvier, là, faut que j'arrête de fumer. J'ai fait ça en plein été, puis j'ai décidé que je stoppais la cigarette. Pas d'aide, pas de gomme, pas d'affaires comme ça. J'ai tout simplement stoppé tout ce que j'associais à la cigarette, le café par exemple, l'alcool et les choses comme ça pendant une certaine période de temps pour me donner une chance, parce que c'était rendu que tu prenais une bière puis c'était 2-3 cigarettes, puis tu prenais un café puis c'était la même affaire. Fait que j'ai coupé ça pendant un temps puis ça a duré. Mais tu sais, l'idée de me prendre une date dans le calendrier puis me dire, ben, à partir du 1er janvier, ça, je fais plus ça. À un moment donné, avec l'âge, là, tu commences à devenir un peu plus raisonnable.
Ben, peu importe, en tout cas, le temps de l'année où vous prenez une résolution, là, donnez-vous la première étape, au lieu de vous donner un petit 3 semaines, des fois, pour tester, donnez-vous au moins 2 mois. Puis là, vous allez pouvoir remarquer si vraiment c'est devenu facile et que ça s'est incorporé à vos habitudes de vie.
me reste un petit 3-4 minutes pour vous parler de quelque chose de bien intéressant. Commencez à en avoir marre peut-être de voir des photos modifiées par intelligence artificielle puis avoir de la difficulté un peu. Tu sais, c'est rendu que c'est compliqué faire la différence entre une vraie et une fausse photo. Ben Google va prendre des mesures pour reconnaître plus facilement les photos qui ont été modifiées par l'intelligence artificielle. Ils vont ajouter un filigrane numérique aux images qui ont été retouchées artificiellement et pourtant, on ne verra rien à l'œil nu. C'est un peu spécial. Quand on va regarder la photo, on se rendra pas compte, ça nous dira pas que ça a été modifié artificiellement ou pas, mais c'est quand on va consulter les méthodes données que là, on va être en mesure de savoir si effectivement il s'agit d'une vraie ou d'une fausse photo, une photo qui a été retouchée par intelligence artificielle. C'est la technologie SynthID qui va permettre de détecter et de marquer automatiquement des images donc, qui ont été, comme je le disais, modifiées par intelligence artificielle pour que ce soit plus facile et rapide d'en vérifier l'authenticité. Pourtant, quand vous allez la regarder comme ça, a priori, à première vue, vous allez dire « ben, ça a l'air normal et tout ça », mais c'est une fois que vous allez consulter le « à propos » de cette photo-là ou que vous allez regarder dans les métadonnées, tu sais, c'est consultable par exemple sur votre PC ou dans votre appareil mobile, là, ça va vous dire « oh, attention, il y a un petit flag qui va, une petite lumière qui va s'allumer, pour ainsi dire, puis qui va vous faire prendre conscience que l'image a été justement retouchée. »
Pourquoi? A été généré aussi par l'intelligence artificielle ou retouché.
Ou retouché, exactement. Et pourquoi on fait ça? C'est que depuis le lancement du plus récent appareil mobile de Google en 2024, le fameux Pixel 9, il y a un outil de retouche des images qui s'appelle le Magic Editor qui permet de modifier, mais modifier pas qu'à peu près, des images grâce à l'IA. Écoutez, ce qu'on peut faire, on peut modifier l'arrière-plan, on peut supprimer des objets, on peut rajouter des personnes dans une image. Ça devient assez bluffant. Tu regardes une image, t'es plus capable de savoir si, je veux dire, t'étais vraiment, par exemple, avec le président américain ou le président français. Tu vois le genre un peu? Ça peut être un peu mêlant pour les gens. Alors, c'est une fonctionnalité qui est certainement très amusante de retoucher les photos, mais ça suscite quand même des questions légales et éthiques. Et là, Google a dit, ouais, ben attention, ce qu'on va faire, on va implanter une technologie qui va faire que vous pouvez retoucher vos photos si ça vous tente, vous pouvez les partager dans les médias sociaux et tout ça, mais on va rajouter un petit quelque chose qui, en background, si vous me permettez l'expression, va permettre d'identifier justement ces photos-là. Et on pourra pas le voir comme ça en regardant, mais il faudra simplement consulter les informations des métadonnées. Le système.
Ça va être beau pour les sites de rencontres, ça, Simon, là, les gens qui ont des photos retouchées qui vont se faire prendre, là, les gens vont aller vérifier avec ça.
Ben, exactement. Mais en même temps, on dit, cette technologie-là, qui s'appelle SynthID, a été élaborée par DeepMind, qui est une division de Google. Elle permet non seulement de vérifier ou de distinguer les images modifiées par IA, mais on peut aussi utiliser cette technique-là pour reconnaître des vidéos ou encore du texte qui a été généré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est quand même assez rendu loin. Elle est en version bêta actuellement et on va tranquillement pas trop vite l'implanter. Je vous l'ai dit tantôt, quand vous allez faire par exemple une recherche Google dans un temps très très rapproché, très prochainement, vous allez avoir un à propos de cette image, vous allez pouvoir cliquer dessus puis on va vous dire si l'image a été retouchée par intelligence artificielle. Et comme tu disais tantôt, les gens dans les sites de rencontres par exemple vont pouvoir constater si une photo a été retouchée ou pas, mais attention, il y a quand même certaines choses qu'il faudra faire pour que la technologie soit appliquée. C'est-à-dire que si vous changez simplement la couleur d'un ballon dans une image, ça peut arriver que ça déclenche pas cet outil-là. Par contre, si vous faites disparaître un poteau, une montagne ou encore que vous rajoutez quelque chose de très flagrant, là, évidemment que l'intelligence artificielle ou en fait le système SynthID va dire, ben là, pouce mais pouce égal là, tu sais, à un moment donné, et c'est là où ça va déclencher ce système justement de reconnaissance des images générées par intelligence artificielle. Comment c'est temps, hein? Pas qu'à peu près.
Ben, ça peut être pratique de savoir. Moi, je suis content que l'outil va exister là pour le grand public.
Exactement. Dans un instant, on revient. On va parler, entre autres choses, de ce que tu voulais nous parler dans le deuxième bloc tantôt.
Ce sera, oui, le côté sociable des serpents qui s'en viennent.
OK, alors on parle de ça dans un instant. On peut contenir des infos. Restez là.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Dans un tout petit instant, elle peut contenir des infos. On vous parle des réseaux sociaux, des serpents.
Oh oui.
Un petit peu ça. Alors, Sébastien va nous raconter que les serpents peuvent aussi être sociables comme des humains. Mais d'abord, je veux vous parler de la merveilleuse histoire des poteaux de téléphone.
Spécial, ben oui.
Hein? Elle peut contenir des infos, ça contient des infos. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi ils font des poteaux de téléphone en bois, quand ont-ils été inventés et tout ça. Le bois, d'abord, c'est un matériau, évidemment, qui est léger et durable, on s'en doute. Mm-hmm. Et c'est aussi très facile à travailler. Ça en fait donc un excellent choix pour les poteaux de téléphone. On peut les couper à la longueur désirée. Vous allez voir des poteaux de 20, 30, 40 pieds, par exemple. Il n'y a pas de problème pour couper ça. Ou encore, si on veut les percer aux endroits souhaités. Alors ça, c'est une autre raison quand on veut monter, par exemple, des travers. Là, au sommet des poteaux pour installer les fils de téléphone et tout ça, c'est très facile à percer, beaucoup plus en tout cas qu'un poteau de métal. Quoique ça existe des poteaux de métal pour l'électricité, le transport des télécommunications et tout ça, mais...
Ouais, les gros pylônes
exactement.
Aussi, là, sont en métal.
Mais de façon plus générale, ce qu'on voit dans les rues et au bord des routes, c'est des poteaux en bois. Donc, c'est beaucoup plus...
Mais encore...
Vas-y.
Mais encore, faut-il avoir des arbres disponibles, hein? Des grands arbres, tout ça, avec ça se pourrait qu'il en manque à certains moments.
Ben, je vais venir tantôt avec ça. Peut-être qu'un jour, on va faire des poteaux en résine. On ne sait pas, en résine de synthèse, ça peut arriver. Mais pour l'heure, le bois est encore une matière ou une denrée qui est assez présente. Et l'autre raison pour laquelle on fait des poteaux en bois, c'est qu'ils peuvent supporter le poids des lignes téléphoniques tout en résistant bien aux intempéries. Ça rouille pas, entre autres choses. T'sais, le bois traité et tout ça, ça a certains avantages. Et quand, par exemple, un poteau, quand il y a un accident, un poteau de bois, ça fesse pas mal moins. Ben, ça fesse, là, mais c'est pas mal moins pire qu'un poteau en métal. Tu sais, tu rencontres un poteau en acier, là, ou en gros aluminium. Et le poteau va céder. Et l'avantage de ça, c'est que c'est suffisamment léger pour que s'il tombe, par exemple, ou s'il est rompu, le poteau de bois, les autres poteaux sur la ligne, tu as déjà vu ça à un moment donné. Il y a des poteaux qui sont cassés. Puis là, tu vois comme un poteau de téléphone qui est au milieu, puis il pend, tu sais, comme tu as le poteau qui pend, la moitié en bas a cédé, puis les autres sont capables de le tenir, justement, parce que c'est quand même une matière qui est pas très, très pesante. Et comme le bois est relativement bon marché et abondant, ça devient évidemment une option économique. C'est quoi le bois qu'on prend pour faire les poteaux en bois?
Ben, ah oui, je sais pas, y a-t-il une sorte d'arbre précis?
Il y en a deux précisément qu'on prend plus que d'autres. Le bois de cèdre, en l'occurrence qu'on appelle le tuya géant, et on prend également du bois de pin rouge. Ce sont les deux essences principalement dont on se sert pour fabriquer les poteaux de téléphone parce que ce sont des essences de bois qui sont particulièrement résistantes aux intempéries et résistantes à la pourriture. Il y a d'autres essences également qui sont propres à l'Amérique du Nord, qu'on utilise aussi quelquefois. On pense au Douglas vert et le pin des marais, mais ce sont des essences qu'on retrouve plus généralement au sud de la frontière parce que chez nous, c'est plus souvent qu'autrement le cèdre et le pin rouge. Comment ça coûte un poteau de téléphone? Ben, c'est dur à dire. Ça varie un peu selon les endroits et selon différents facteurs. L'essence de bois utilisée, évidemment, la longueur, le traitement, la quincaillerie nécessaire, l'installation et tout ça. Mais grosso modo, les prix varient entre quelques centaines de dollars jusqu'à 2 000 ou 3 000 $ dans certains cas, une fois installé.
Par poteau.
Par poteau.
C'est quand même dispendieux.
Mais... Oui, tu sais, si vous pensiez mettre 50$ pour acheter un poteau de téléphone, là, c'est un petit peu plus que ça. J'ai magasiné un petit peu en ligne pendant que je faisais ma recherche. J'en ai trouvé à 300-400$, si ça peut vous intéresser. L'utilisation des poteaux de téléphone, ça remonte à quand, d'après toi?
Là, je sais pas, fallait que les réseaux électriques soient bien avancés, qu'on ait vraiment... Non, c'est pas nécessairement pour des réseaux électriques. Hein, le téléphone passe pas nécessairement par...
Ben, c'est arrivé au milieu du 19e siècle.
OK.
Alors, on attribue la création des poteaux de téléphone à Samuel Morse. Ça veut dire ça?
Celui qui a fait le code Morse.
Exactement, l'inventeur du système de communication à qui on doit son nom, le fameux code Morse. Samuel Morse, à l'époque, pour pouvoir implanter son télégraphe, il voulait enfouir les fils de télégraphe. Mais là, il s'est cassé un peu le bessic où il s'est creusé la tête puis s'est dit « ouais ». Planter, mettre des fils un peu partout, là, creuser pour installer ça partout où on veut amener le télégraphe, ça va être d'une part un peu difficile. Hein? Des fois, tu vas rencontrer du roc et tout ça, puis ça va peut-être coûter un peu plus cher que ce que je pensais. Alors là, il a dit, ben, et si on mettait les fils de télégraphe dans les airs? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire justement des poteaux de télégraphes au départ, oui, et qui par la suite sont devenus des poteaux de téléphone. Donc c'est de là qu'il nous est venu l'idée des poteaux de téléphone. Et aujourd'hui, on les croise évidemment quotidiennement, là, les poteaux de téléphone. Ils sont là un petit peu partout aux quatre coins des rues et ils sont faits à peu près partout en bois dans nos milieux de vie. Puis on se rend pas compte à quel point c'est quelque chose de somme toute assez fondamental ou assez essentiel dans le fonctionnement de notre société, parce que s'il n'y avait pas de poteaux de téléphone pour faire passer les fils de téléphone, ben il faudrait les planter ou les enfouir un peu partout, puis ça coûte de l'argent enfouir les fils.
Oui. Puis on dirait que tout le long, je me suis comme confondu entre électricité et téléphone, parce que dans le fond, hein, ça passe par la même place.
Ben oui, mais c'est parce que les poteaux électriques passent pas forcément toujours dans les poteaux de téléphone. Tu sais, okay, il y a des poteaux électriques, par exemple, comme tu l'as dit tantôt, qui vont passer sur des pylônes, les pylônes en métal qui sont pas très loin de chez nous, par exemple, des gros pylônes en métal pour passer les fils électriques. C'est vrai, comme t'as bien raison, que les fils qui vont desservir les maisons vont passer à travers le même, généralement,
les mêmes poteaux, hein?
Les mêmes poteaux, là, de façon générale. Mais avant l'électricité, je tiens quand même à vous faire remarquer qu'il y a eu les télégraphes,
ben
avant,
oui,
qu'il y ait le réseau électrique de façon très, très généralisée. Donc, les poteaux de téléphone sont venus avant.
Avant,
oui, c'est ça, exactement.
Quand même.
Voilà.
Eh bien. On parle de serpents, oui.
Tu peux pas, vas-y, avec les serpents, bien sûr.
Ben oui, c'est parce que c'est ça. Les serpents, c'est pour essayer peut-être de vous les faire aimer un peu plus, hein. On sait que c'est pas les animaux bien aimés, les favoris de la plupart des gens, les serpents. Puis moi, d'ailleurs, j'ai peur des serpents. Quand je suis proche de serpents, j'ai de la misère à vouloir aller les toucher. Même si je sais qu'il est domestiqué, là, ou qu'il est correct, puis qu'il n'y a aucun danger, je trouve ça épeurant un peu, le serpent. Je pense que j'avais pas peur quand j'étais petit des couleuvres, mais là, c'est venu avec l'âge, j'ai commencé à avoir plus peur. À ce temps, je vois une couleuvre, puis j'ai moins le goût de la prendre dans mes mains que quand j'étais jeune.
Donc, c'est ça,
hein? Je sais pas pourquoi. Mais bon, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs canadiens, hein, sur des couleuvres rayées. Puis on relève là-dedans que les serpents, en général, cherchent activement à rejoindre et à faire partie d'un groupe. Et ça, je le savais pas du tout. En fait, c'est souvent considéré comme des animaux solitaires, les serpents. On les voit, ils se promènent, ils mangent leur petite affaire, font leur petite vie. Puis, qui serait froid aussi, pas vraiment de contact sociable. Mais, c'est complètement le contraire. L'étude est vraiment claire là-dessus. Ils créent des réseaux sociaux complexes, les serpents. Ils ont vraiment des groupes et tout. Alors, il y a certaines espèces de reptiles où les interactions sociales sont cachées. Alors là, c'est plus difficile de les comprendre, hein. Il y a des communications entre serpents qui se fait via des signaux chimiques invisibles. Là, dans cas-là, on peut pas vraiment aller les chercher, mais c'est plus difficile à étudier dans ce temps-là. Mais des comportements qui sont déjà connus de serpents, comme par exemple les crotales, qui s'appliquent dans les soins parentaux. Ils s'occupent vraiment des petits. Et il y a aussi les boas de Cuba qui sont capables de chasser en groupe et ils se coordonnent pour faire de la chasse. Donc, ça, c'était déjà connu avant même l'étude dont je vais te parler. Là, deux chercheurs du département de psychologie de l'Université Wilfrid Laurier, et ici au Canada, se sont intéressés, eux, à la sociabilité en tant que telle d'une sous-espèce de couleuvre rayée, un nom scientifique là à dormir debout, mais c'est pas une sous-espèce, je ne la nommerai pas aujourd'hui, mais ça reste que ça ressemble à un petit serpent. Puis, ils cherchent donc à rejoindre des groupes. Ils ont été regroupés par 10 dans une petite enceinte avec 4 abris. Puis là, les chercheurs ont observé les interactions sociales pendant 8 jours entre les serpents. Ils ont fait plusieurs constatations. En premier, les serpents, premièrement, on a vu qu'ils cherchaient vraiment à former des groupes. Puis, ils préfèrent les groupes plus gros. Si un serpent a le choix d'en faire partie d'un groupe ou l'autre, celui qui est le plus nombreux, il va aller vers lui. C'est quand même impressionnant. Puis, les interactions dépendent de plusieurs facteurs, comme par exemple... Il y a des serpents un peu plus sociables que d'autres. Il y a aussi l'âge du serpent qui compte là-dedans, sa hardiesse, son trait de personnalité qui est souvent étudié, ça, en éthologie, la hardiesse de certains serpents, et ça influence leur schéma pour former des groupes. Et puis, on a constaté aussi que c'est pas aléatoire, les associations qui font les serpents. Ils interagissent préférentiellement avec certains serpents en particulier. Ils ont des préférés dans le groupe. Puis, pour tester la stabilité des groupes, ils ont mélangé 2 fois par jour les groupes qu'ils avaient faits,
okay,
de serpents pour voir qu'est-ce qui allait arriver. Puis les serpents, progressivement, mais ils reconstituent leur groupe préféré, là. Ils sont pas d'accord de rester dans un nouveau groupe. Ils ont vraiment des préférences, des amis serpents dans leur groupe de serpents. Alors, puis je vais te donner un peu pourquoi. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à être social pour un serpent, et en particulier pour les jeunes, parce que, ben, en groupe, premièrement, ils retiennent mieux la chaleur et l'humidité que s'ils sont tout seuls. Donc déjà ça, ça les aide. En plus, si un prédateur attaque, le fait que chaque serpent a plus de chances de s'enfuir, que s'il est tout seul puis il se fait attaquer, il va se faire avoir. Mais le fait d'être beaucoup quand ils se font attaquer, c'est qu'il y en a plus qui ont de chances de s'enfuir. Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle ils préfèrent les groupes. C'est intelligent, hein? C'est comme, on dirait que c'est même pas eux qui le réfléchissent, c'est la nature qui le fait pour eux, tu sais.
C'est ça, c'est inné, là.
Oui. Puis ils peuvent prendre exemple les uns sur les autres aussi, les serpents. Puis si un serpent explore son environnement puis qu'il se déplace, c'est clair que c'est parce qu'il considère que son environnement est sûr. Pour les psychologues, là, l'étude est bénéfique, on dit, pour l'image des reptiles, hein. Ça va peut-être faire un petit peu plus les apprécier. Ça contribue à nourrir aussi une littérature qui n'existe pas beaucoup, hein, sur la sociabilité des serpents. Là, on commence à peine à en voir arriver. Fait que ça va aider beaucoup cette étude-là. Et pour changer les perceptions de la communauté scientifique aussi, le public dans son ensemble, c'est sûr, mais la communauté scientifique va commencer à élaborer là-dessus. Puis, des découvertes comme ça, ça peut améliorer les efforts de conservation pour les serpents parce que déplacement de reptiles, par exemple, ça, on le fait souvent, on les change d'endroit pour les protéger des activités des humains, des activités anthropiques, par exemple. Et puis là, il faudrait désormais tenir compte des besoins et des préférences sociales quand on les déplace. Alors, on devrait déplacer un serpent avec ses amis préférés, ceux qui sont le plus proches de lui dans son groupe, pour pas le perturber dans son déplacement et dans son ensemble. Puis si on les déplace dans leur groupe puis qu'on garde leurs amis proches, les serpents sont bien dans leur nouvel environnement. Alors, c'est quand même assez spécial. Les serpents ont véritablement des amis et des serpents préférés dans leur groupe, puis ils se forment des groupes. Ils recherchent même intensément à former des groupes.
On vous rappelle que à la fin de l'émission, dans le quatrième bloc, nous aurons un quiz cette semaine sur les dessins animés célèbres. Alors, soyez là si vous êtes des amateurs de dessins animés. Et on va marquer une pause cette fois-ci pour revenir dans un instant avec notre troisième bloc dans lequel on va parler des oiseaux. Hein? On va parler entre autres des œufs d'Inde. Oui. On va parler des cigognes également. Alors, restez branchés.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
On est là avec Peut contenir des infos et on va parler de quelque chose de fondamental dans la vie, les œufs. Mais parce que, tu sais, les œufs, je veux dire, il y a bien des choses qui naissent avec les œufs, mais les œufs bien particuliers, les œufs de dinde.
Oui, puis est-ce que vous avez déjà goûté des œufs de dinde? Toi, Simon, est-ce que tu as déjà mangé des œufs de dinde?
Je me rappelle pas avoir mangé des œufs de dinde.
C'est ça, c'est rare, hein?
Ben, peut-être qu'on m'en a fourgué dans un gâteau, je sais pas, mais non, comme ça, là, ça m'a pas de mémoire.
Oui, je suis tombé sur un article dans nature.ca, puis c'était un article de Simon Cabage, puis qui parlait des œufs de dinde, puis qui, lui, ce qu'il posait comme question, c'était est-ce que vous en avez déjà mangé, puis comment ça se fait qu'on n'en mange pas tant que ça, comment ça se fait que c'est si rare? Et puis, ben, j'ai les réponses à vos questions là-dedans, mais les œufs de dinde, c'est aussi comestible que les œufs de poule. C'est aussi savoureux, sinon plus. Donc, c'est ça. Mais pourquoi c'est si rare dans nos cuisines? Parce qu'il y a des millions de dindes qui sont élevées là, chaque année. Ça, on sait, leurs œufs ne sont pourtant pas dans les supermarchés, hein, puis ni dans les menus de restaurants. Alors, ça ressemble pourtant vraiment à des œufs de poule, mais c'est légèrement plus grand. Je vais donner une petite définition, une description. Ça pèse entre 65 et 115 grammes, un œuf de dinde.
Ah, quand même,
donc,
hein?
C'est un petit peu plus grand, puis c'est 50 grammes à peu près un œuf de poule. Donc, ceux à 65 sont pas beaucoup plus gros, mais 115, des fois, ça peut être quasiment le double. Mais c'est entre un petit peu plus gros et le double d'un œuf de poule. La coquille est plus épaisse pour un œuf de dinde. La membrane aussi. Alors, ça les rend plus difficiles à casser. Bon, mais c'est pas la grande raison pourquoi on n'en voit pas beaucoup, mais ils sont plus difficiles à casser. Mais côté goût, ça se rapproche presque pareil aux œufs de poule, mais texture plus crémeuse.
Okay.
Ça devient intéressant. Puis, c'est une teneur en matière grasse un peu plus élevée. Sur le plan nutritionnel, ça se démarque. 135 calories, 11 grammes de protéines, 9 grammes de lipides par œuf. Puis, on compare, là, c'est seulement 72 calories des œufs de poule, 6 grammes de protéines, 5 grammes de lipides. Alors, c'est quasiment le double là, dans tous les aspects. Mais la teneur en cholestérol est vraiment impressionnante. C'est 933 mg. Ça, c'est plus que le double des 372 mg qui sont présents dans les œufs de poule. Alors, c'est vraiment un côté gras qui arrive là avec les œufs de dinde, mais ça doit être très bon. Moi, j'y ai pas goûté non plus, mais là, je suis comme intéressé.
Mais ben, j'imagine que pour faire par exemple une omelette avec des œufs de dinde, ça doit donner un repas, ça doit être assez soutenant là.
Oui, ça doit bourrer vraiment. Mais les obstacles à la consommation des œufs de dinde, bon, il y a pas beaucoup qui sont produits pour la consommation, premièrement. Il y a un faible taux de production, contrairement aux poules qui pondent aussi presque à tous les jours. Une dinde, ça en pond moins, hein, des œufs. On parle de environ 2 œufs par semaine. pour une dinde. Sur une année, ça fait une moyenne de 100 œufs, mais pour une poule normale, c'est 350 œufs à peu près par année. Donc, une poule, c'est 100 fait plus, c'est plus productif. Il s'ajoute à ça le temps nécessaire pour qu'une dinde atteigne l'âge de ponte, parce que c'est 7 mois, tandis que pour une poule, c'est seulement 5. Donc, ça va plus vite sur tous ces aspects-là. Le délai est plus long. Puis, il y a des coûts supplémentaires aussi pour l'alimentation, l'hébergement d'une dinde. C'est plus compliqué. Et puis, ça fait que c'est moins rentable. Ça rend les œufs de dinde moins attrayants pour les éleveurs également, côté financier. Alors, ça explique un peu, hein, défi majeur qui explique leur rareté. Mais les dindes, de par leur taille imposante aussi, ont besoin de manger plus. Alors, ça a besoin de plus d'espace. Alors, c'est ça. Alors, c'est compliqué. Un œuf de dinde, ça peut être commercialisé parce que ça l'est. Hein. Vous pourriez en trouver. Mais c'est à peu près 2,90 l'œuf. À peu près, donc, 34 $35 la douzaine. Alors, ça dépasse beaucoup ce que les gens seraient prêts à payer pour des œufs parce que t'en as pas beaucoup plus qu'avec les œufs de poule, tu comprends? Alors, tu feras pas beaucoup plus d'omelettes, là.
Ben, c'est une question. Au final, moi, je comprends que c'est une question de rentabilité à quelque part, là.
Ouais, ben il y a la rareté, le fait que c'est plus dur à produire, il y a le fait que oui, ça coûterait plus cher, mais si on était prêt à payer, si la demande était là, ça serait une autre histoire. Là, la demande n'est pas vraiment là non plus. Ouais. Les gens sont pas vraiment pour ça. Bon, les quelques œufs qui sont produits là, généralement, sont réservés à l'incubation pour assurer le renouvellement des troupeaux de dindes. T'sais. Alors c'est ça, une orientation vers la production de viande, c'est plus rentable, c'est sûr. Une demande limitée. Que je te mentionnais, c'est vraiment un autre facteur parce que, en fait, la consommation moyenne d'œufs de poule, c'est 250 œufs par personne par année en moyenne. Ouais. Les œufs de dinde ont jamais réussi à s'imposer dans l'alimentation de personnes, dans aucun pays non plus, sans un véritable engouement. Si la population disait du jour au lendemain, on en veut, c'est bon, c'est meilleur, on est prêt à payer, ah ben là, je pense que ça se mettrait à être une incitation économique à proposer en grande quantité pour certains. Bon, mais il y a des défis logistiques de l'élevage de dindes. Je l'avais parlé, leur taille, mais nature plus agressive aussi. Hein. C'est pas mal plus agressif qu'une poule, là, une dinde. Ça complique des fois les affaires. Puis les poules sont faciles à gérer, sont petites. Bon, système d'élevage est assez évident. Puis ça, c'est une autre raison. Une expérience culinaire de niche, par contre, pour les aventuriers du goût, là, qui voudraient tester les œufs de dinde, c'est possible. Il y a des éleveurs qui proposent parfois des œufs de dinde qui sont rares sur les marchés locaux, mais directement à la ferme, on pourrait en avoir si vous voulez goûter, là, c'est peut-être un bon endroit où aller. Ceux qui les ont dégustés, ils disent vraiment que c'est une expérience unique. C'est pas totalement différent, là. C'est pas radical à comparer des œufs de poule, mais c'est spécial. Il paraît que c'est bien unique. Puis la coquille plus épaisse, la membrane plus robuste, bien, vu que ça demande plus d'efforts pour les casser, ça ajoute une petite dimension aussi. Et puis, il y a un contexte historique et économique axé sur la viande aussi qui explique que ça soit rare parce que l'élevage des dindes, c'est surtout pour la viande. Hein. Et les repas de Noël, des choses comme ça, c'est devenu traditionnel. Alors, on en demande beaucoup pour ça. Elle occupe une place importante, la dinde, parmi les viandes consommées, mais elle reste derrière le poulet quand même, le porc et le bœuf. La dinde va en deuxième. Moi, j'aime mieux la dinde. Personnellement, là, je trouve la viande de dinde, c'est la meilleure. Je pense que c'est ma viande préférée. Puis, la rareté des œufs de dinde, mais ça s'explique par une combinaison de facteurs économiques simples, faible rendement, coût de production élevé, manque d'intérêt des consommateurs, et puis tout ça fait que c'est très peu rentable. Bien que les œufs de dinde restent une curiosité quand même, là, leur histoire montre qu'il y a un équilibre complexe entre biologie, économie et demande du marché qui façonne nos habitudes. Si c'était pas de ça, on s'en irait un peu n'importe où. Là, souvent, on suit les tendances. Puis, si vous avez un jour l'opportunité d'en goûter, ben profitez-en. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Et faut s'attendre à payer quand même pas mal plus cher qu'un œuf normal, mais ça vaut la peine pour au moins l'essayer.
T'as piqué notre curiosité. On va aller faire un tour à la ferme, essayer de se trouver des œufs de dinde.
Pourquoi pas?
Pas sûr que dans les supermarchés, on en trouve bien, mais peut-être, ça se peut. Okay.
Non, c'est ça. Puis quand il y en a, très, très rarement, mais ils sont chers. C'est à peu près 35$ la douzaine.
Oui, commence à faire cher un peu pour une douzaine d'œufs. Hein. On va rester dans le domaine aviaire, dans le domaine des oiseaux. Je vais vous parler des cigognes. Tu connais les cigognes? T'as déjà entendu parler?
Certains. C'est surtout celles qui amènent les bébés. Là. J'ai toujours entendu parler d'histoire. Ben, oui.
Exactement. C'est un oiseau fascinant avec une riche histoire qui est associée à de nombreuses légendes. Tu l'as dit, entre autres, que les cigognes amènent les bébés, apparemment. Mais ce qui est assez ironique, c'est que même si c'est connu d'à peu près tout le monde, on n'en sait pas beaucoup au sujet de la cigogne. En tout cas, pas chez nous en Amérique du Nord. Sais-tu pourquoi?
Pourquoi donc?
Parce que des cigognes en Amérique du Nord, il y il y en a pas des chars. Hein.
Il y en a pas beaucoup, il y en a pas du tout.
Il y a une espèce. Et il y en a même pas au Canada. Les cigognes sont principalement présentes en Europe, en Asie et en Afrique. De toutes les espèces de cigognes, il y en a une seule qui serait présente en Amérique. Et c'est en Amérique du Sud, particulièrement en Argentine, semble-t-il, qu'il y a des cigognes. Et un petit peu de temps en temps, si on a de la chance, on peut en voir en Floride.
OK.
C'est à peu près ça.
Mais c'est un bel oiseau. C'est assez majestueux. C'est un grand oiseau.
Très beau. On les voit aussi. Ça a l'air qu'il y a une espèce de cigogne du côté de l'Australie. Mais c'est spécial parce que tout le monde a entendu parler des cigognes. Puis, tu sais, c'est dans la culture populaire et tout ça. En Europe, les cigognes, on les trouve fréquemment dans des pays comme l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Pologne. Les cigognes appartiennent à la famille des Ciconidés. Alors, c'est une famille d'oiseaux échassiers qui est constituée de 6 genres et 19 espèces. Et les cigognes, ce sont, on le sait, on les a tous, là, l'image dans la tête, ce sont des échassiers, longues pattes, longs coups, généralement un plumage blanc et noir avec un long bec long et étroit qui va du rouge au noir. Et parmi les espèces existantes, malgré qu'il y en a, je l'ai dit tantôt, quelques 19 espèces, les deux plus connues, celles qu'on a là, dans la culture populaire ou qu'on voit le plus souvent, c'est la cigogne blanche, qu'on appelle Cicogna cicogna, et la cigogne noire, qui s'appelle la Cicogna nigra. Comment ça s'appelle, selon toi, le petit de la cigogne? C'est quoi le petit de la cigogne?
Un cigogneau.
Tu l'as, exactement, drette dessus, le cigogneau, exactement. Les cigognes sont des oiseaux migrateurs. Ils passent les mois d'été généralement en Europe où elles sont très présentes et elles migrent vers l'Afrique subsaharienne en hiver. Donc, elles descendent bien en bas du Maghreb, apparemment. Les cigognes se nourrissent principalement. Qu'est-ce que ça mange, les cigognes?
Des poissons?
Un petit peu. Oui, okay. Ça mange des poissons, ça mange des amphibiens, ça mange des insectes, des fois des petits mammifères, des fois ils sourient, des affaires comme ça, hein, c'est
petits,
quand même assez.
Ouais, on, ça l'avale tout rond, puis.
Tu parlais d'œufs tout à l'heure. Alors j'ai pas la taille ou la dimension des œufs de cigogne, mais pour pondre leurs œufs, elles font des grands nids avec des branches et divers matériaux. La plupart du temps, même presque tout le temps, c'est en hauteur et on les voit souvent sur des cheminées, des tours et des arbres, les cigognes. Et l'une des raisons pour lesquelles on a longtemps associés, on a tellement entendu parler des cigognes, c'est qu'on les associe, évidemment, tu l'as dit, à de nombreux mythes et légendes. Et le plus couramment entendu de ces mythes-là, c'est que les cigognes apportent les bébés.
C'est un peu pour raconter une histoire aux enfants, hein? Ça, c'est pour pas expliquer là, l'acte. Et puis, on disait, c'est la cigogne qui amène...
Ouais, c'est ça, c'est les abeilles ou je sais pas trop. Il y a tout le temps des histoires à raconter aux enfants avant qu'ils commencent à comprendre comment ça fonctionne. Une légende très très ancienne se trouve trouve ses origines en Europe du Nord. On dit que c'est sans doute à cause de leur habitude de nidification qui est très près des humains. Alors on a pu assister aux habitudes et aux us et coutumes des cigognes. On a associé leur fertilité à la naissance parce que c'est un des premiers oiseaux. Elles nichaient sur les cheminées ou à proximité des cheminées des maisons. Et comme les gens étaient capables de les voir faire, materner leurs bébés et tout ça, alors à ce moment-là, on a dit, regarde, c'est des mamans protectrices, puis elles s'occupent de leurs enfants et tout ça. Donc, on a associé dans l'histoire les cigognes à justement au fait d'avoir des bébés. Et c'est aussi leur cycle de reproduction ou de migration, parce qu'elles reviennent au printemps, de façon générale, elles partent tout l'hiver pour aller, on l'a dit tantôt, en Afrique subsaharienne. Et quand elles reviennent avec leurs bébés et tout ça, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est le printemps qui se réveille et tout ça. Donc, on a fait justement de ces oiseaux-là une espèce de mythe, un symbole qui est associé à la fertilité ou à la naissance. Et d'autres symboles qu'on attribue à la cigogne, on lui attribue les symboles de bonne chance et de prospérité. Et vous savez que les cigognes, et je vais conclure avec ça, elles peuvent atteindre des hauteurs absolument incroyables en vol. Elles utilisent des courants thermiques pour voyager sur de longues distances sans se fatiguer. Elles sont connues d'ailleurs pour leur très longue migration. Elles peuvent atteindre jusqu'à 10 000 kilomètres.
Ah oui, hein?
Alors,
ça, c'est des voyageurs.
ça, les voyageurs, quand elles partent là, jusqu'à leur site d'hivernage, elles peuvent parcourir 10 000 kilomètres entre leur site de reproduction et leur site d'hivernage. Et les cigognes sont vraiment des créatures majestueuses, pleines de mystères. Elles sont enracinées dans de nombreux mythes. Puis je le disais tantôt, ce qui est assez spécial, c'est qu'il y a des grosses chances qu'il y ait personne ou à peu près parmi nous autres qui ait déjà vu des cigognes, parce qu'il n'y en a pas chez nous, mais on les a tellement entendus, on les a tellement lus dans les livres de contes pour enfants que c'est connu maintenant, les cigognes, ça apporte les bébés. Intéressé par les dessins animés, mon cher ami?
Oui, j'ai toujours aimé les bandes dessinées surtout, mais okay. Dessins animés, c'est un quiz là-dessus qui s'en vient.
Absolument. Dans le quatrième et dernier bloc de l'émission, dans un instant, on va parler des dessins animés célèbres. Restez avec nous autres.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
Vous êtes là avec nous autres pour ce dernier quart d'heure de l'émission « Peut contenir des infos » qui va se terminer, mais pas avant qu'on ait exploré le merveilleux monde des dessins animés.
Oh,
les
oui.
Dessins animés célèbres à part de ça, les dessins animés connus. Je pense que la plupart d'entre vous allaient être en mesure de, sinon répondre correctement à toutes les questions, au moins d'avoir, disons, certaines pistes de réponse, parce que si on les a pas déjà vus, tous ces dessins animés célèbres-là, on en a tous au moins déjà entendu parler, je pense.
Mm-hmm.
C'est pas pire des dessins animés, toi,
Sébastien? J'en ai écouté beaucoup, j'en ai regardé beaucoup, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, alors je me sens prêt pour ce quiz-là. Je me sens bien outillé.
On commence avec celui qui est probablement l'un des plus connus d'entre tous, je vous dirais, ou en tout cas celui qui dure depuis le plus longtemps. Les Simpsons.
OK, oui.
Simpsons?
Oui, les Simpsons, j'ai écouté les premiers épisodes. Là, quand c'est sorti, on est tombé en amour avec ça, là, toute ma famille.
Ben parfait. Alors, en quelle année, justement, la célèbre famille Les Simpsons est-elle apparue pour la première fois au petit écran?
OK, c'est
un choix de réponse.
Un choix de réponse, je vais l'avoir, c'est sûr.
Un choix de réponse. A, 1979.
Non.
B, 1984. C, non, 1987. Ou D, 1991.
C'est 1991.
Ouais, tu penses?
Oh oui, au Canada.
Ouais, ben c'est ça. Ben, les Simpsons sont apparus pour la première fois à la télé le 19 avril 1987.
OK, mais c'est pas au Canada,
mais,
ça.
Mais attention, et c'est même pas dans un épisode des Simpsons à proprement parler.
Ah non? OK.
Non, c'est dans un court-métrage. La première fois qu'on voit les Simpsons apparaître au petit écran, c'est dans un court-métrage qui fait à peine, c'est même pas un épisode complet, ça fait à peine 1 minute 48, le 19 avril 1987. On voit Homer et Marge qui souhaitent bonne nuit à Bart, à Lisa et Maggie, qui sont tous terrorisés par des idées effrayantes. Puis si ça vous tente, là, faites une recherche sur YouTube, puis vous allez trouver le premier dessin animé des Simpsons du mois d'avril 1987. Je vais dire, là, on est loin des dessins animés Les Simpsons de 2025.
Même les dessins ont changé?
Ah oui, c'est carré pas mal, là,
ouais,
franchement.
Ouais, ouais.
Là, tu sais, c'est rough. Là, comme dessin, là, tu vois qu'il y a une méchante marge, il y a toute une évolution entre les... Mais écoute, ça fait 40 ans quand même, 1987, ouais. où à peu près on est rendu en 2025.
Mais, c'est vrai que les dessins ont changé beaucoup entre les premiers épisodes aussi, puisqu'on voit aujourd'hui des Simpsons.
Ben des fois on regarde Télétoon. Regardes-tu des fois Télétoon, la chaîne Télétoon?
Ça fait longtemps que j'ai pas tombé dessus, mais
la chaîne Télétoon le soir, Télétoon en français, en tout cas, ils ont une espèce de bloc où il y a les Télétoon la nuit que ça s'appelle. Je pense que c'est à partir de 20h ou 21h le soir. Puis ils passent entre autres les Family Guy et tout ça. Puis ils passent aussi les Simpsons. Puis ça arrive de temps en temps qu'ils nous repassent des épisodes des années 80 ou 90 plus souvent. Mais mon Dieu Seigneur, les changements, là, c'est incroyable comment les techniques sont raffinées.
Parce que je me rappelle que c'était dans les années 90 où les premiers épisodes en français ont commencé à jouer à la télé ici.
Ouais. Ouais.
Donc, la bonne réponse, c'était 87, mais c'était la première apparition dans un court-métrage.
C'est ça, la première fois où on voit là, au petit écran les Simpsons. Voilà. Question numéro 2. Laquelle de ces célèbres séries de dessins animés n'a pas été créée par le duo William Hanna et Joseph Barbara? Tu connais Hanna et Barbara? Qui
non,
était la grosse, tu sais, dans les années 50-60, la grosse compagnie qui produisait les dessins animés. Je dis les années 50-60, puis je pense que même aujourd'hui encore, on voit des dessins animés de Hanna et Barbara. Alors, lequel de ces dessins animés célèbres n'a pas été créé par William Hanna et Joseph Barbara?
Okay.
Est-ce A, les Flintstones, les pierres à feu en français? Est-ce que ce sont les Jetsons? C, Tom et Jerry? ou D, Family Guy?
Je vais dire les Jetsons, qui sont, selon moi, créés par le même duo qui a fait les Simpsons.
Eh bien non, tu as tort. La réponse, c'est D. C'est Family Guy. Okay. Family Guy a été plutôt créé par Seth MacFarlane. Parlant de Family Guy, un seul de ces personnages n'est pas l'un des enfants de Peter. Connais-tu les Family Guy?
Non, c'est ça. Je serais pas bon pour celui-là. J'ai des amis qui écoutent ça. Moi, j'ai pas trouvé ça si comique ou j'ai trouvé les dessins moins beaux.
Okay.
Je pense que c'est la raison pourquoi j'ai pas accroché sur Family Guy. Parce que ça a l'air que c'est très comique, c'est très drôle. C'est intelligent puis tout ça, mais j'ai pas accroché. Puis je pense que c'était les dessins au départ.
C'est intelligent. Je veux dire que Peter Griffin n'est pas exactement le gars le plus brillant de la planète. Là, mais, alors, il y a un seul de ces personnages qui n'est pas un enfant de Peter et de Lois Griffin dans la série d'animation Family Guy. Est-ce que c'est A, Chris? Est-ce que c'est B, Brian? C, Meg? Ou D, Stewie?
Je sais tellement pas. Là, les gens qui connaissent Family Guy doivent répondre à ça facilement. Moi, je vais dire Stewie.
Ben non.
Ben non,
c'est Brian. Parce que Chris, Meg et Stewie, ce sont les enfants de Peter et Lois, tandis que Brian, c'est le chien de la famille Griffin.
OK.
Et tu sais ce qu'il a de particulier, Brian? C'est qu'il parle.
Il parle, oui.
Brian, il parle, il conduit une Prius et il est auteur de romans et puis il est un peu pédant ses bornes.
Bon, on voit que c'est intelligent. Hein? C'est de l'humour intelligent comme ça.
Quatrième, celui-là peut-être que tu vas l'avoir. Bob l'éponge. Tu connais Bob l'éponge?
Oui, un peu.
Bien sûr. Alias SpongeBob SquarePants, comme on l'appelle en anglais. Il vit dans une ville sous-marine. Connais-tu le nom de la ville sous-marine où vit Bob l'éponge? Est-ce que c'est A, Modern Sea? Est-ce que c'est B, Deep Diver? Est-ce que c'est C, Bikini Bottom? Ou D, Shrimp Paradise? Selon toi, où vit Bob l'éponge?
Dis-moi les deux premiers, s'il vous plaît.
Ouais. Modern Sea, est-ce que c'est Deep Diver, le B?
Ouais.
Je peux continuer avec les autres. Bikini Bottom, le troisième choix. Et le dernier, D, ce serait Shrimp Paradise.
J'hésite. Je vais essayer le dernier, Shrimp Paradise.
Shrimp Paradise, mais non. T'en as pas encore une bonne. C'est Bob l'éponge, il vit à Bikini Bottom.
C'est celle-là que j'hésitais en dedans, j'aurais dû dire ça.
Bikini Bottom.
Ça prenait un peu d'humour dans le nom en plus, ouais. J'aurais dû réaliser.
Alors, bas de bikini, si on traduisait littéralement en français. Bikini Bottom, c'est ça. Cinq, les personnages de Lana Kane et de Sterling Archer.
Connais pas. Ça va mal, le dessin animé.
Tu connais pas Archer? Eh, hey, mon Dieu Seigneur, les personnages de Lana Kane et de Sterling Archer sont deux. Sont deux A, des agents secrets. Est-ce que ce sont B, des policiers? Est-ce que ce sont C, des restaurateurs? Ou D, des agents immobiliers?
OK, je veux dire des policiers.
Ben non. Lana Kane et Sterling Archer, ce sont des agents secrets. Ce sont
deux. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'était ça qui était dans le. C'est ça dans le choix de réponse.
Agents secrets, policiers, restaurateurs ou agents immobiliers. Non, ils n'ont pas de badge, eux autres. Là. Non, ils se promènent pas avec des calottes.
C'est agents secrets que je voulais dire, parce que j'avais vu passer une annonce de ce dessin animé-là, puis j'aurais voulu.
Mais c'est quand même pas rien, là, parce que tu l'as peut-être jamais vu, Archer, mais la série d'animation Archer, ça a été diffusé, mine de rien, pendant 14 saisons, hein. Ça a duré 14 saisons de 2009 à 2023. Les gens ont pu voir Archer à la télévision. Et même chez nous au Canada, la télésérie Archer ou la série animée Archer a été diffusée sur Télétoon et en français et en anglais. Alors, la sixième question, je pense que celle-là, tu vas l'avoir. Je peux pas croire.
On passe ça.
J'espère, en tout cas. Non, mais si tu l'as pas, celle-là, je dis pas que je l'ai plantée là pour que tu que t'aies une bonne réponse, mais mettons qu'elle est assez facile.
On y va.
Popeye, là, tu connais Popeye?
Ben oui, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il mange pour être fort?
Ben voilà, qu'est-ce qu'il mange pour être fort?
Des épinards, c'est vrai.
Bon, alors c'est des épinards. Évidemment, tu n'as même pas eu besoin de choix de réponse.
Ça va être comme ça jusqu'à la fin, là.
Alors, j'allais dire des fèves au lard, de la purée d'abricots, des épinards ou des raviolis à la viande. Ben non, Popeye le marin consomme, et ça, c'est bien connu.
En canne.
En canne, en plus. En canne, parce qu'évidemment, il faut presser la canne pour montrer sa force. Ce qui est bizarre, c'est qu'il presse la canne pour ouvrir les épinards pour les manger, pour avoir la force. Comme s'il était pas, tu sais, quelqu'un qui écrase une canne d'épinards, là, me semble que tu commences à être fort pas mal. Hein. Alors, c'est ça, les épinards qui lui donnent cette force surhumaine. Mais c'est un peu, bref, c'est un peu comme Obélix dans Astérix et Obélix, tu sais.
La potion.
Obélix qui veut manger de la potion, mais ou qui veut boire de la potion, puis qu'il en a jamais besoin finalement parce qu'il est tombé dedans quand il était petit, tu sais. C'est un peu ça. Mm-hmm. Septième question. Qui est le créateur des Schtroumpfs? Est-ce A, le Belge Pierre Culliford, qu'on appelle dans sa forme courte Peyo? Est-ce que c'est B, le Belge Georges Rémy, alias Hergé? Est-ce que c'est C,
c'est Tintin.
Le Polonais Gustave Ehrlich, qui est mieux connu sous le nom de Gus, ou le Français Didier Vasseur, alias Tronchet?
Non, c'est vraiment Peyo.
Peyo, exactement. Les Schtroumpfs sont de petits lutins bleus qui ont été créés par le Belge Pierre Culliford.
Ouais. Je connaissais pas son nom, ouais, c'est ça, c'était Peyo qui est écrit sur les bandes dessinées, ouais.
Peyo, exactement. Huitième, qui sont les ennemis jurés des G.I. Joe? Tu joues au G.I. Joe?
Pas beaucoup, mais je devrais être bon, là. Je me rappelle, c'est des...
Ils sont en noir. OK. Alors, il y a eu, évidemment, que les G.I. Joe, ça a été des figurines, mais ça a été aussi une série d'animation du même nom. Alors, est-ce que c'est A, Scorpio Corp? Est-ce que c'est B, Cobra Command? Est-ce que c'est C, Eagle Eye? Ou est-ce que c'est D, Black Mamba?
Je vais dire Cobra Command.
Cobra Command, évidemment, ouais, c'est ouais, une ouais. organisation.
On voyait le Cobra là sur les, c'est des bonhommes noirs avec un cobra rouge. Là.
Exactement. Ouais. Alors Cobra Command, c'est une organisation à la fois criminelle, terroriste et paramilitaire qui est formée par le commandant Cobra lui-même. C'est le boss de l'organisation. Il s'appelle Cobra.
Parce que là, t'es dans ma génération là avec ces questions-là. Quand t'étais avec Télétoon, là, j'étais perdu un peu plus. Là, c'est pour ça les mauvaises réponses, je connaissais vraiment moins. Mais là, dans les G.I. Joe, Transformers. Ouais. Dis-moi que c'est une des Transformers de la dernière.
Non, malheureusement. Ah. on va revenir un peu en arrière, mais tu devrais les connaître quand même. Grand Galop et Petit Trot. Connais-tu Grand Galop et Petit Trot?
Oh non, non, le nom me dit quelque chose par contre, mais...
Grand Galop et Petit Trot, une série, ben écoute, c'est quand t'étais peut-être quand même pas dans les pensées de tes parents, c'est de septembre 59 à octobre 61.
Non, c'est des séries que c'est mes parents qui m'en ont parlé, ouais.
On conclut avec ça. Grand Galop et Petit Trot étaient A, deux chevaux, B, un chien et un chat, C, deux chèvres, ou D, deux vaches?
Oh, c'est intéressant, OK, mais je vais y aller. C'est sûr qu'on aurait tendance à vouloir dire deux chevaux, mais Petit Trot, mais je suis sûr que c'est pas ça. Renomme-les tes chevaux.
Deux chevaux, un chien et un chat, deux chèvres ou deux vaches?
Je vais essayer le chien et le chat.
Non.
Non?
Non. Non, non, c'est ça, c'était deux chevaux.
Ah, c'était vraiment deux chevaux, donc on, oui, Grand Galop et Petit Trot.
Grand Galop et Petit Trot.
Je pensais que c'était qu'on faisait, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était trop évident.
Non, non, il n'y avait pas de poigne avec ça, c'était bel et bien Grand Galop et Petit Trot, contrairement à ce que tu pensais. Ben, quand même, trois bonnes réponses. T'as eu les épinards de Popeye, t'as eu Peyo pour les Schtroumpfs et t'as eu Cobra Command sur un quiz de tête à 33%.
Bon, non, c'est pas fort. Mais je suis jamais fort dans tes quiz, mais j'aime ça. J'aime ça, j'apprends des choses. Puis je pense que les gens là qui sont un peu plus jeunes que moi là ont certainement réussi mieux parce que t'avais beaucoup de questions qui pouvaient toucher des gens un petit peu plus jeunes, la génération milléniaux là.
OK, on est allé se promener dans les extrêmes un petit peu là.
Ouais.
Les boomers peut-être, puis les milléniaux.
Parce que tu vois, moi, les trois questions que j'ai eues, c'est vraiment des bonhommes qui jouaient dans les années 80 là, quand j'étais jeune. Là, c'est vraiment ça là. Ouais.
Ça clôt pour l'émission de cette semaine. On l'a encore une fois très apprécié. On va se retrouver la semaine prochaine. Et c'est toi qui vas faire le quiz la semaine prochaine?
Absolument. Je ne sais pas encore le sujet. Je vais travailler là-dessus cette semaine, trouver quelque chose de bon et d'intéressant et pour en apprendre encore.
Salut, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, salut.